au quotidien avec Hélène Denis.
Bon mercredi à tous et à toutes. C'est 22 octobre aujourd'hui, 22 octobre 2025. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Et au programme aujourd'hui, plusieurs choses, notamment une présence vraiment excitante. La danseuse chorégraphe légendaire Margie Gillis sera en studio nous pour nous parler de l'âme du poète hommage dansé à Gilles Vigneault, présenté en première mondiale le 4 novembre au théâtre Gilles Vigneault. Et j'ai bien hâte de la rencontrer. Celle qui a dit « waouh », c'est Isabelle Falardeau. Bonjour.
Bonjour.
Margie Gillis, oui, c'est quelqu'un que vous aimez bien?
Ben oui, c'est mon genre de... C'est le genre d'art que j'aime. Il y a une créativité, une originalité, une fluidité.
Ah oui. Et elle va parler, entre autres choses, de la place des aînés dans l'art, parce que Margie Gillis a 72 ans et elle danse toujours. Alors, tant qu'on aime ce qu'on fait, ben pourquoi, pourquoi s'arrêter? Bon, Isabelle, vous êtes dans les patates ce matin?
On va tous être dans les patates, puisque je réponds à cette question. Est-ce que les pommes de terre sont vraiment mauvaises pour la santé?
Hein? Qui dit ça?
C'est un article que j'avais trouvé sur le site en anglais, là, Forks Over Knives, qui est un site consacré à l'alimentation à base de plantes et complète, donc whole food, plant-based, comme on dit à l'Académie française. Et j'ai un peu aussi, je me suis beaucoup inspirée aussi d'un autre article que j'ai trouvé sur le site de National Geographic dans la section science sur, plus spécifiquement, l'amidon résistant, qui est une partie de la réponse de pourquoi les pommes de terre, oui, effectivement, sont bonnes pour la santé, vous allez voir.
Parfait, merci beaucoup. Elles sont bonnes pour la santé, elles sont tellement bonnes au goût, on peut en faire tellement de choses.
Parfait, voilà.
Serge, c'est du sérieux ce matin avec vous, là. Vous parlez de la circonscription au Canada.
Oui, oui, oui. Alors, c'est deux. Il y a eu deux conscriptions au Canada. Une à la Première Guerre mondiale en 1917 et une deuxième dans les années 40, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est deux événements qui ont marqué le Canada. Ça a été une déchirure pour le Canada parce que le Canada anglais n'était pas la conscription, puis le Québec était contre la conscription. Alors, je vais vous parler de cela.
D'accord. La chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte qui a vu Le train de Marie Brassard, L'accident de piano de Quentin Dupieux, film qui semble totalement surréaliste, Un simple accident de Jafar Panahi. C'est le film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes cette année. Et nous aurons aussi les nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette. Jo Dassin, ça vous dit quelque chose? Étienne Copé a repris cette chanson. La voici.
Façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être moi, à tes mots tendres, un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. La folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin.
Étienne Copé et Flavie Melançon chantaient « À toi ».
Jolie reprise. Sondage somme la presse. C'est la une de la presse plus d'aujourd'hui. Les Québécois tournent le dos à Legault. Tommy Chouinard qui nous offre ce dossier. Le premier ministre assure qu'il briguera un troisième mandat, mais les trois quarts des Québécois jugent qu'il devrait partir avant les élections générales de l'automne 2026. Et si le Parti québécois caracole depuis 2 ans dans les intentions de vote, la souveraineté, elle, n'a pas la cote. François Legault a beau miser sur une poignée d'idées populaires pour se relancer, le verdict sur son avenir politique est sévère. Les trois quarts des Québécois jugent qu'il devrait partir avant les élections générales. François Legault devrait-il partir? Alors, il y a 43 % qui répondent. François Legault devrait-il, trois petits points. 43 % répond terminer son mandat puis se retirer de la vie politique. 31 % démissionner avant la fin de son mandat. 16 % se présenter aux élections générales d'octobre 2026 pour solliciter un autre mandat. Et 10 % ne le savent pas. Le premier volet de ce coup de sonde publié hier, mardi, montrait un appui à la réforme du régime syndical, au resserrement de la laïcité et aux coupes dans la bureaucratie annoncées par François Legault dans son plan de match pour la dernière ligne droite de son mandat. Un constat s'impose, selon le vice-président de Somme, Vincent Bouchard. Il ne semble pas y avoir de problème avec le message, mais plutôt avec le messager. L'usure du pouvoir fait son œuvre et l'écoute de la population à l'égard du premier ministre faiblit, résume-t-il. On a posé d'autres questions. Satisfaction à l'égard de la performance personnelle de François Legault, 60 % totalement insatisfait. Et puis aussi à la question « Qui pourrait remplacer François Legault à la CAQ? » Sonia Lebel et Simon Jolin-Barrette occupent le haut du pavé avec 14 % Christian Dubé, 10 % Geneviève Guilbeault également 10 % Bernard Drainville, 6 % Christine Fréchette, 5 % Je ne sais pas, 36 % Et puis, parmi les chefs de parti suivants, lequel ferait le meilleur premier ministre du Québec? François Legault, 14 % Pablo Rodriguez, 12 % Paul Saint-Pierre Plamondon obtient le plus haut pourcentage avec 26 % Rubah Ghazal, 6 Éric Duhaime, 10 % Aucun, 15 % Je ne sais pas, 17 % L'étude a été réalisée en ligne du 8 au 12 octobre auprès d'un échantillon de 1058 adultes québécois inscrit au panel d'internautes de Somme. À la une du Devoir maintenant, 5 millions par kilomètre pour démolir une piste cyclable. Un hypothétique démantèlement de piste cyclable à Montréal coûterait jusqu'à 5 millions de dollars par kilomètre selon le type d'infrastructure à démolir. Il s'agirait d'une opération relativement complexe parce qu'il faudrait remplacer les feux prioritaires pour vélos ainsi que la signalisation, les bollards, les lignes de peinture ou les bandes de béton, reconstruire la chaussée et refaire le design des voies de circulation, indiquent nos sources. L'aspirante mairesse Soraya Martinez-Ferrada répète qu'elle ne démantèlerait aucun aménagement pour vélo. La communauté cycliste n'est pas rassurée. La Ville de Montréal a mené ses estimations au cours des derniers mois dans la foulée de la bataille du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, contre certains aménagements cyclables à Toronto. L'engagement de la chef d'Ensemble Montréal, Mme Martinez-Ferrada, a mené un audit du réseau cyclable pour débusquer les pistes jugées non sécuritaires, a aussi joué dans la décision d'évaluer les coûts d'un démantèlement, même partiel. La priorité à Montréal, le logement, c'est Zachary Goudreau qui signe cette série. Le Devoir plonge dans les promesses du passé et d'aujourd'hui. Premier texte, le logement. Les promesses à ce sujet s'accumulent dans cette campagne municipale au point de rendre certains experts sceptiques. Et puis, à la une du Journal de Montréal, le hockey, le chandail des Nordiques qui revivra pour sept matchs. L'Avalanche du Colorado fera revivre de bons ou douloureux souvenirs en jouant avec son uniforme d'origine, entre autres contre le Canadien de Montréal. Réaction de Michel Bergeron, bravo, tabarslac que je suis content. Aussi, élection municipale, toujours à la une du Journal de Montréal, 60 élus blâmés officiellement veulent être réélus ou le sont déjà. Et Jean-Marc Généreux s'en va, petite révolution à révolution. Il sera remplacé, donc, puisqu'il s'en va, il y a d'autres projets ailleurs. Le danseur de renommée internationale Vincent Noiseux prendra le relais de l'excentrique danseur de ballroom Jean-Marc Généreux lors de la 7e saison de Révolution en 2026. C'est Frédéric de Simone qui signe le texte dans le Journal de Montréal. Jean-Marc Généreux, quant à lui, sera retenu de l'autre côté de l'Atlantique pour d'autres projets professionnels.
One, two, three, four, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, that's what my youth was for.
FAST 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4.
Et on parle des patates avec Isabelle Falardeau. Isabelle, il y a notre ami Mathieu qui a fait une recherche et la patate, c'est le surnom familier de pommes de terre.
Oui, c'est oui, on pourrait dire ça. C'est en langage familier, on dit patate. Puis pour les scientifiques, on doit utiliser pomme de terre. Mais comme on est entre nous, hein, on peut dire patate.
Pourquoi pas?
Je pense. Donc oui, le titre de l'article.
Et non pétate ou pétac.
Les pétacs, hein, les bonnes pétacs de grand-maman. Donc, les pommes de terre sont-elles vraiment bonnes pour la santé? Ce que révèlent les recherches, c'était le titre traduit de cet article, donc, de Forks Over Knives, signé Megan Edwards, que vous pouvez retrouver dans sa version intégrale sur le site. C'est daté du 25 septembre dernier. Mais je vais aussi vous parler de l'article « L'amidon résistant, forme de glucides essentiels pour votre santé ». Celui-là date de septembre 2024. C'était sur le site du National Geographic, sous la plume de Stacy Colino. Et donc, c'est ça. On commence par donc se poser la question. On commence par dire, en fait, que l'Américain moyen consomme près de 22 kilos de pommes de terre par an. Alors, c'est quand même une bonne quantité. Ça en fait le légume le plus populaire aux États-Unis. Et on se pose la question, donc, pourquoi est-ce qu'ils ont encore mauvaise réputation? Et évidemment, on a souvent entendu parler du fait que quand on perd du poids, on essaie de réduire les glucides. Les pommes de terre sont riches en glucides. Ça pourrait être une des réponses.
Elles font partie des 3 P?
Les 3 P, hein, pain, patate, pâte,
ouais.
Ou pommes de terre, si vous préférez. mais des recherches scientifiques récentes mettent fin à ces vieux préjugés et prouvent une fois pour toutes que ces savoureux tubercules méritent leur place dans votre assiette. J'entends tout de suite votre soupir de soulagement. Moi, j'ai toujours dit, hein, avant même que la science me donne raison, que si j'étais prise sur une île déserte, si j'avais le droit d'apporter un seul aliment, c'était la patate. C'était plus une question de goût qu'une question de santé, mais ça me rassure beaucoup de savoir que ça va aussi être bon pour ma santé si jamais ça arrive.
Vous aimez, vous adorez la patate. Crue?
J'aime vraiment beaucoup les patates.
Crue aussi?
Oui, en fait, moi, j'ai mangé longtemps des pommes de terre crues avant de savoir qu'on n'était pas supposé de faire ça.
Oui, je pense que ça, c'est pas bon pour la santé.
Ça n'a jamais causé de problème.
Bon.
C'est pas bon pour la santé pour certains aspects, mais en fait, ça contient de l'amidon résistant à la pomme de terre crue. Alors, ça, c'est peut-être pour ça que ça. Peut-être que les bénéfices compensent pour les problèmes.
Enfin, les non-bénéfices, façon, probablement. Ouais.
Les non-bénéfices, ouais, c'est ça. Désavantage, c'est le mot que j'ai.
Ouais.
Donc, c'est ça, on va voir pourquoi les pommes de terre peuvent être bonnes pour la santé. On commence par nous parler des légumes féculents, puisque la patate est un légume féculent. Et les légumes se classent en deux groupes principaux, donc les féculents et les non-féculents. Les féculents, c'est ceux qui contiennent une bonne quantité d'amidon. L'amidon, ben, c'est un glucide complexe qui est composé de molécules de glucose qui sont formées lors de la photosynthèse des plantes. Et une fois consommé, le système digestif décompose le légume féculent en divers éléments du glucose. Et ce glucose est ensuite utilisé comme source d'énergie. Donc, on a tous besoin de manger des féculents, de l'amidon, en fait. Puisque c'est ça qui est principalement ça qui est utilisé pour fabriquer le glucose qui nous sert d'énergie. Et ça, c'est ça inclut l'énergie nécessaire à notre cerveau pour fonctionner. Mais évidemment, trop, c'est comme pas assez. Tout est dans la dose, n'est-ce pas? Le poison, la dose, c'est le poison. Mais c'est ça, là, outre leur quantité d'amidon, ben, les pommes de terre contiennent aussi, les légumes féculents, en fait, contiennent aussi une bonne dose de fibres. Et les fibres, on sait que c'est une bonne source de... En fait, c'est un bon élément pour la santé. Ça favorise non seulement la santé des bactéries intestinales et un transit intestinal régulier, mais c'est également relié à un IMC sain, l'indice de masse corporelle, et plein d'autres bienfaits pour la santé. On a souvent parlé du bienfait des fibres. Pour ce qui est de l'amidon, ben, l'amidon, il y a trois types d'amidon. L'amidon à digestion rapide, celui qu'on retrouve principalement dans les aliments hautement transformés, le riz blanc, le pain blanc, les collations sucrées. Les pommes de terre contiennent de l'amidon à digestion rapide ou ADR, mais seulement quand elles viennent juste d'être cuites. Puisque en refroidissant, une grande partie de leur ADR se transforme en ADL, qui est la deuxième forme d'amidon, l'amidon à digestion lente. Ça, c'est un type d'amidon qui a une structure plus complexe. Il est décomposé en glucose par l'organisme, mais à un rythme beaucoup plus lent. Donc, il n'y a pas de pic de glycémie aussi fort qu'avec l'amidon à digestion rapide. Et le troisième type d'amidon, bien, c'est l'amidon résistant. C'est celui dont on veut le plus. Il n'est pas digéré dans l'intestin grêle. Il se rend jusqu'au gros intestin et là, il fermente. Il favorise la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, les fameuses bonnes bactéries.
C'est bon pour la microbiote.
Exactement. En fait, l'amidon résistant devient un prébiotique, c'est-à-dire la nourriture les probiotiques, donc les bonnes bactéries. Et ça, on le retrouve dans les bananes vertes, les pommes de terre crues, l'avoine, certaines noix et graines, les haricots et les légumes. Les haricots, mais aussi la plupart des légumineuses.
Mm-hmm. Mais les bananes vertes, je sais pas vous, là, mais il me semble que c'est pas si bon.
Ben, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches parce que cet article-là me posait plein de questions auxquelles je voulais répondre. Effectivement, les bananes vertes, ben, il y a vraiment plusieurs sources qui le mentionnent. Donc, les bananes qui ne sont pas encore mûres contiennent de l'amidon résistant et en mûrissant, l'amidon se transforme en amidon à digestion rapide. Donc, c'est vraiment une bonne chose si vous êtes capable de manger des pommes, des bananes qui ne sont pas encore tout à fait mûres.
Ah, tout à fait mûres, c'est correct. Mais complètement pas mûres ou complètement vertes, non.
Sont difficiles à éplucher. Je pense que moi, en tout cas, la principale difficulté que j'ai trouvée. Mais toujours est-il donc que ce fameux amidon résistant, pourquoi est-ce qu'il est bon?
Ouais.
On pourrait le décrire comme une fibre. Alors, c'est vraiment, on a besoin de fibres dans notre alimentation. Des chercheurs ont comparé la quantité d'amidon résistant contenu dans du riz blanc tout juste cuit, du riz blanc qu'on a laissé refroidir pendant 10 heures et du riz blanc qu'on a laissé refroidir mis au réfrigérateur pendant 24 heures et qu'on a ensuite réchauffé. Donc, on constatait que la teneur en amidon, et là, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est pas juste les pommes de terre, mais le riz blanc aussi, si vous le faites refroidir avant de le manger, ça transforme aussi une bonne partie de son amidon en amidon résistant. Donc là, on parle de cette étude-là en particulier dans l'article sur l'amidon résistant. Ils ont constaté que la teneur en amidon résistant du riz cuit, refroidi et réchauffé était plus de 2,5 fois supérieure à celle du riz fraîchement cuit. Et ça entraînait une réponse glycémique plus faible que celle du riz tout juste cuit. Donc, pour le riz aussi, c'est une des conclusions là, de cet article-là, on vous recommande de cuire votre riz et vos pommes de terre à l'avance. Faites-en une petite quantité, une petite provision. Et puis, parce que la bonne nouvelle, c'est que même si on réchauffe l'aliment après l'avoir refroidi, ça retransforme pas l'amidon. Donc, les pommes de terre, parce que les pommes de terre cuites contiennent de l'amidon à digestion rapide et une partie à digestion lente, mais comme je disais plus haut, une fois qu'on les a refroidis, cet amidon-là est transformé en amidon résistant, qui est celui qu'on veut.
Bon, alors, vive l'amidon résistant et non l'ami résistant. Isabelle,
exactement.
C'est tout pour vous. La patate, on en mange sous toutes les formes, peut-être pas nécessairement des frites à tous les jours, là, mais une bonne frite une fois de temps en temps.
Faites-les refroidir avant, puis ensuite réchauffer, peut-être qu'elles vont être meilleures pour votre santé.
Ah ouais, des frites réchauffées. OK, on va essayer ça. On y va avec vous, Serge, d'Histoire de la conscription au Canada.
Oui, l'idée m'est venue, c'est que dimanche, dans la Presse Plus, il y avait un article de Marc Tison sur la conscription, la crise de 1917.
Un article intitulé « 1917-1918, l'explosion de colère contre la conscription
». Alors, ça m'a donné l'idée de fouiller un peu. Alors, je suis allé voir dans l'Encyclopédie canadienne pour voir l'histoire de la conscription au Canada. Alors, c'est un article de J.I. Granstein et Richard Jones, et ça a été mis à jour en 2022. Alors, c'est assez quand même...
Relativement récent.
Ouais.
Quand on parle d'histoire...
Oui, ben c'est ça, oui. Alors, la conscription, parfois nommée « appel sous les drapeaux », est l'enrôlement obligatoire ou l'appel des citoyens pour le service militaire. Le gouvernement fédéral a adopté la conscription lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Et les deux cas ont créé de nettes divisions entre les Canadiens anglais, qui tendaient à soutenir la pratique, et les Canadiens français, qui, de manière générale, ne la soutenaient pas. Et actuellement, le Canada n'a pas de service militaire obligatoire. Les Forces armées canadiennes sont un service volontaire. Petite note personnelle, je sors un peu du texte, mais les deux crises de la conscription, ça a été vraiment, avec la crise de Louis Riel à la fin du 19e siècle, ça a vraiment fractionné la société. Et c'était des crises politiques là, très, très profondes. Alors, ça a marqué d'ailleurs, après, les libéraux ont été plus souvent élus que les conservateurs, parce que les conservateurs ont appliqué la loi, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les libéraux qui étaient au pouvoir, mais ils ont fait un référendum, je vais en parler tout à l'heure, là. Mais il y a toujours eu une dent contre les conservateurs au Québec.
Mais ils ont été élus, vous avez dit.
Ils ont été élus avec Diefenbaker en 57-58, puis avec Mulroney. Mais la plupart du temps, c'est les libéraux qui rentraient. Mm-hmm. Assez souvent. Alors, sous la conscription, tous les hommes d'un certain âge doivent s'inscrire auprès du gouvernement pour le service militaire. Dans certains pays, les femmes sont également conscrites. Une fois inscrites, ces personnes peuvent être appelées au service militaire et certaines personnes peuvent être excusées du service militaire obligatoire. Ceci peut inclure des personnes exerçant certaines professions ou des personnes qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap physique ou mental.
Alors, on va poursuivre avec vous, Serge, au retour de la pause à compter de 10 heures. Serge qui nous parle de l'histoire de la conscription au Canada, en fait, des conscriptions au Canada, puisqu'il en a eu deux. Merci.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Oui, il y a Isabelle Falardeau qui est là. Et puis, Serge, vous poursuivez avec la conscription au Canada lors de la Première Guerre mondiale.
Exactement, oui. Alors, faut dire, actuellement, il n'y a pas de conscription au Canada. Puis en Europe, probablement pas. Ce n'est pas un sujet d'actualité. Les pays qui ont la conscription, quelques-uns, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Suède, Israël. Alors, durant la guerre des Boers de 1899 à 1902, plusieurs milliers de Canadiens se portent volontaires pour combattre l'Empire britannique outre-mer. C'est une guerre qui a lieu en Afrique du Sud entre les colons Boers et l'Empire britannique. La conscription pour l'effort de guerre limité du Canada en Afrique du Sud n'est donc pas nécessaire. Il est également de même pendant les premières années de la Première Guerre mondiale. De 1914 à 1915, environ 330 000 Canadiens s'enrôlent volontairement pour combattre les Allemands en France et en Belgique. Quand même un nombre assez important. Cependant, à la fin de 1916, les lourdes pertes implacables en vie humaine de la guerre et le nombre horrifiant de victimes commencent à causer des problèmes de renfort pour les commandants canadiens qui sont postés outre-mer. Le recrutement au pays ralentit et les systèmes d'enrôlement et de main-d'œuvre sont désorganisés. Pour le premier ministre Sir Robert Borden, conservateur, la première nécessité de porter assistance aux hommes dans les tranchées. En mai 1917, il revient de la conférence impériale de guerre à Londres et de visite dans les tranchées. Il décide que le service militaire obligatoire est nécessaire et il annonce sa décision au Parlement le 18 mai. Cependant, Sir Robert Borden craint que les opposants à la conscription, incluant le Parti libéral de Sir Wilfrid Laurier, unissent leurs forces pour vaincre le gouvernement conservateur aux élections générales prévues en décembre de cette année-là. Il décide que la meilleure façon d'induire la conscription, tout en rassurant le Québec, où le soutien pour la conscription est faible, est de guider son adversaire francophone vers une coalition de guerre, un gouvernement de coalition. Le 25 mai, il offre au chef du Parti libéral, Wilfrid Laurier, de former un gouvernement de coalition et Borden promet aux libéraux un nombre égal de sièges au cabinet en échange de leur soutien à la conscription. Cependant, après avoir consulté ses partisans, Wilfrid Laurier rejette l'offre le 6 juin. Il croit que le Québec n'accepterait jamais la conscription. Et il craint s'il se joint à la coalition, le Canada français sera livré aux mains des nationalistes québécois comme Henri Bourassa. Après d'énormes difficultés, la loi du service militaire est adoptée le 29 août 1917 et elle soumet tous les citoyens masculins âgés de 20 à 45 ans au service militaire jusqu'à la fin de la guerre. Presque tous les députés francophones s'opposent à la conscription. Presque tous les députés anglophones la soutiennent. Les 8 provinces anglophones endossent également la décision de Robert Borden, tandis que la province de Québec s'y oppose. En octobre, après des mois de manœuvres politiques, Robert Borden annonce la création d'un gouvernement d'union, une coalition de conservateurs loyaux et une poignée de libéraux et de députés indépendants pro-conscription. Cependant, certains dirigeants des Premières Nations ont contesté la conscription sous prétexte qu'elle violait les traités entre la Couronne et les peuples autochtones. En conséquence, les peuples autochtones, soumis ou non à un traité, ont été exemptés de la conscription en janvier 1918. En revanche, et ça c'est un peu... C'est triste. Les Canadiens noirs sont soumis à la conscription. Malgré l'opposition à laquelle de nombreux volontaires noirs ont fait face lorsqu'ils ont tenté de s'enrôler plus tôt volontairement. Alors, tu veux t'enrôler volontairement, ben non, t'es noir, non.
Discrimination.
Mais là, la conscription, là, on rentre dans les rangs. Ouais. La controversée loi des élections en temps de guerre est adoptée le 20 septembre 1917 et elle élargit le droit de vote aux élections fédérales aux infirmières militaires travaillant pour le service de la santé de l'armée canadienne. Cependant, la loi des élections en temps de guerre retire également le droit de vote à des milliers de citoyens susceptibles de voter contre la conscription. Ceci comprend les immigrants venant de pays ennemis qui sont devenus citoyens après 1902, mais les citoyens qui ont un fils, un petit-fils ou un frère en service actif dans les Forces armées canadiennes sont exemptés. Les élections fédérales de 1917 sont divisées. Ni les Canadiens anglais ni les Canadiens français ne sont unanimes dans leurs opinions sur le sujet. Mais le Canada anglais, de façon générale, donne à Robert Borden le mandat de mettre la conscription en vigueur. Et le gouvernement d'Union remporte une majorité de 153 sièges contre 82 pour l'opposition. En tant que mesure politique, la conscription est largement responsable de la réélection du gouvernement de Borden. Toutefois, elle laisse le Parti conservateur aux prises avec une lourde responsabilité et de forts sentiments de trahison au Québec. C'est ça que je vous disais qui a perduré là, dans les années. Et dans les régions rurales de l'Ouest, où la conscription a dérobé des gens des fermes familiales. Toutes ces grandes fermes de l'Ouest, tout ça avait besoin de main-d'œuvre et ben, malheureusement, les gens n'étaient pas là. Des émeutes contre la conscription éclatent au Québec. En 1918, afin de réprimer les émeutes anticonscription de Pâques qui ont lieu à Québec entre le 28 mars et le 1er avril 1918, le gouvernement recourt à la loi sur les mesures de guerre, thème qu'on a utilisé après ça dans les années 70. Mm-hmm. La loi martiale est déclarée et plus de 6000 soldats sont déployés. Les émeutiers attaquent les troupes avec des coups de feu et des missiles improvisés, incluant de la glace et des briques. On est encore vers la fin de l'hiver. Les émeutes de Pâques deviennent de plus en plus violentes et font jusqu'à 150 victimes. 4 civils sont tués lorsque les soldats ripostent aux émeutiers armés qui retournent le tir sur eux. Le processus de convocation débute en janvier 1918 et certaines exemptions de convocation sont également levées au printemps 1918. Des 401 882 hommes qui s'inscrivent au service militaire, 124 588 hommes sont enrôlés dans le corps expéditionnaire canadien et parmi ceux-ci, 99 651 hommes sont portés à l'effectif alors que les autres sont jugés inaptes au service libéré. À la Deuxième Guerre mondiale, deux décennies plus tard, alors que la menace d'une nouvelle guerre en Europe devient sérieuse, la question de la conscription militaire devient à nouveau l'objet de débats politiques animés. Cependant, en mars 1939, le Parti libéral et le Parti conservateur acceptent tous deux un programme qui rejette la conscription pour un éventuel service outre-mer. Alors, on pensait comme ça acheter la paix. Hein. Lorsque le Canada déclare la guerre en septembre 1939, le gouvernement renouvelle sa promesse de ne pas conscrire les soldats pour le service outre-mer. En juin 1940, alors que la Belgique et la France tombent aux mains de l'Allemagne nazie, le public commence à réclamer du Canada un effort de guerre plus concerté. Le gouvernement répond à ces demandes en adoptant la loi sur la mobilisation des ressources nationales le 21 juin. Cette loi ne prévoit l'enrôlement que pour la défense intérieure. On ne parle pas d'envoyer les soldats à l'étranger. L'inscription se déroule presque sans incident. Une exception notable est l'opposition publique du maire de Montréal, Camillien Houde, qui il est interné d'ailleurs, Camillien Houde, durant 4 ans.
Hein?
Pour avoir exhorté les électeurs à ignorer les lettres d'appel militaire.
Interné? Il a fait de la prison?
Oui, interné dans un camp militaire. Oui. Ah bon? Et ça a été après la guerre, quand ça a été levé, là, qu'il a retrouvé sa liberté, c'était un héros. Il était acclamé par les Montréalais. Là. En 1941, alors que le recrutement progresse lentement, de plus en plus de personnes se prononcent en faveur de la conscription, d'abord au sein du Parti conservateur et plus tard parmi les Canadiens anglais en général. Et afin d'apaiser les partisans de la conscription, le premier ministre Mackenzie King, libéral, décide de tenir un référendum non exécutoire qui demande aux Canadiens de libérer le gouvernement de ses promesses anti-conscription. Au Québec, la Ligue pour la défense du Canada est créée afin de faire campagne pour le camp du non. Et le 27 avril 1942, 72,9% des résidents du Québec votent non. Dans toutes les autres provinces, le oui triomphe à environ 80%. C'est vraiment deux blocs, hein? Complètement. Le gouvernement adopte alors le projet de loi 80 et ce projet de loi autorise la conscription pour le service outre-mer si cela est jugé nécessaire. Ah. Le Bloc populaire du Québec est formé en réponse à cette loi et le parti continue de lutter contre la conscription en présentant des candidats aux élections provinciales d'août 1944 et aux élections fédérales de juin 1945. Et après les opérations du jour J et la bataille de Normandie en 1944, le Grand Débarquement, J.L. Ralston, ministre de la Défense nationale, est convaincu de la nécessité de la conscription outre-mer et des pertes étonnamment élevées au front combinées à un engagement important de main-d'œuvre dans l'aviation royale canadienne et dans la marine royale canadienne, laisse l'armée canadienne à court de recrues. Alors, puis Mackenzie King a pensé, en remplaçant Ralston par quelqu'un d'autre, se débarrasser de la conscription, mais malheureusement, son cabinet anglophone, les partis anglophones ont dit non, il faut avoir la conscription. Alors, mais ça crée moins de dommages, celle-là, cette conscription-là. Ouais.
Ben merci d'avoir choisi ce sujet. Moi, je connaissais pas grand-chose. Hein. Je suis plus ferrée en patates qu'en conscription. Mais ils ont dû en manger des patates aussi, hein. Un aliment complet qui fait en sorte que... Mm-hmm. Puis en plus, c'est pas trop cher. Mm-hmm. Merci Serge, merci Isabelle.
Merci, bonne semaine.
Bye.
Un jour, je ferai mon grand cerf-volant. Un côté rouge, un côté blanc. Un jour, je ferai mon grand cerf-volant. Un côté rouge, un côté blanc. Un côté tendre. Un jour, je ferai mon grand cerf-volant. J'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pie. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie. Si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc. Un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent, nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre. Puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz, ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du temps. jeter l'été dans la main du temps.
La voix unique de Gilles Vigneault, le grand cerf-volant, est aujourd'hui à l'émission Au quotidien à l'occasion de la première mondiale de sa toute nouvelle création, L'âme du poète, hommage dansé à Gilles Vigneault, présenté le 4 novembre au Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. On a la grande chance de recevoir en studio une artiste majeure, une pionnière de la danse contemporaine au Canada, et j'ai nommé Margie Gillis. Bonjour, Margie Gillis.
Bonjour, je suis très contente d'être ici.
Bien, merci, nous. On est honorés de vous recevoir. Vous êtes toujours aussi engagée dans la création. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à monter sur scène, à créer, à danser?
La curiosité. La curiosité, c'est important quand on est plus âgé en plus. Et la curiosité, un passion, un désir, les images, les visions. Et je veux manifester ces choses et je continue.
Devant voilà. Un public?
Oui. De partager avec un public, c'est quelque chose d'intime et spécial. Pour moi, c'est pas juste n'importe quoi. Mm-hmm. C'est important pour les danseurs d'avoir la chance de faire une communication. Sinon, on peut danser dans le bois. Moi, je peux danser dans le bois. Heureuse, dans un champ, pas de problème. Mais d'être sur scène, c'est de partager un pièce de talent.
Et je me demandais, la danse, Margie Gillis, fait partie de votre vie depuis, je ne sais pas si c'est toujours, mais pourquoi vous avez choisi ce médium pour vous exprimer?
Je viens d'une famille sportive.
Ah oui?
J'ai commencé de danser, ma mère m'a donné des cours de danse à l'âge de 3 ans.
C'est votre mère qui vous enseignait la danse?
Non, elle
vous a inscrite.
Oui. OK. Et... elle a dansé elle-même et ma tante, quand même dans une époque avant. Mais elle me donnait, offrir de prendre des cours parce que j'ai déjà dansé. Et elle trouve que c'était juste, et j'ai dansé, c'était ma façon d'exprimer ma vie, de changer, de transformer, d'être, calme ou d'être solide avec ce qui est dans moi. Et j'ai pas pensé d'être un danseur. C'était juste ma façon de parler.
Ah oui, c'est naturel, 18... votre langage.
Oui, c'est ça.
Ça s'est imposé.
C'est mon langage premier. Et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé que j'avais quelque chose à dire, d'aider... philosophie à
partager,
examiner avec une audience, avec les autres. Et j'ai commencé de créer sérieusement des pièces de mouvement, de danse. Je voulais que le mouvement va être naturel, que c'est comme j'étais en train de créer dans le moment mm-hmm. pour eux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail avant ça pour préparer ce rituel. Mais,
et le courant passé, est-ce que ça a été un succès immédiat?
Oui, parce que j'ai pensé que je vais faire le premier spectacle, ça va être inutile et je reviens à mon premier choix d'être un professeur des enfants ou d'être un psychologue.
Alors, ah oui, psychologue?
Oui,
ah,
oui, je voulais. Et dans un sens, j'ai fait les deux, en tout cas. Mais la danse me suivait, elle poussait et la première... spectacle était un succès dans ma niveau, avec les émotions de l'audience, la capacité de toucher un autre, d'être ouvert avec ce qui est dans moi pour que je peux transformer et toucher ce qui est important et intime dans les autres. Mm-hmm. C'est comme le tristesse, c'est pour ma tristesse. Ma tristesse m'a aidé de comprendre tristesse.
Ouais.
Et c'est ça, toujours, j'ai assez dans ce que Carl Jung peut dire, un état transformatif.
La chorégraphe psychologue, Margie Gillis. Est-ce que votre premier spectacle s'est passé au Québec?
Oui.
Oui?
Oui, oui. Oui.
Oui?
Oui, juste dans un petit espace d'église et...
Ah
oui,
dans une église. Alors, il y a votre nouvelle œuvre, on en parlait au début de l'entrevue, L'âme du poète, c'est un beau titre. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'univers de Gilles Vigneault?
J'ai vu lui-même. Oui. Son esprit, c'est un...
Est-ce que vous le connaissez personnellement?
Ah oui. Il est un genre de noblesse, simple, de passion, de philosophie, qui veut avoir une meilleure société, qui aime son société, qui aime la nature, qui comprend le lien avec d'être humaine et d'être dans la nature, qui adore l'amour. Il est en amour avec l'amour.
Toujours et... curieux, hein, vous parlez de l'importance oui. de la curiosité, même oui. quand on avance en âge, là, parce qu'il a 97 ans.
Oui. Oui, et bonne fête, Gilles. Oui, j'ai commencé de travailler avec lui quand 30 ans passaient, avec une pièce qui s'appelle Voyage, qui est le milieu de cette pièce. C'était une pièce, j'adorais la pièce de Gilles, C'est les bateaux que nous avons bâtir. Mais c'était juste 3 minutes. Puis j'ai demandé à Gilles et aussi un ami de moi, Gaétan Leboeuf, qui est un musicien formidable, de allonger la pièce et créer un paysage. Que je peux, le paysage de Gévignon,
ah, oui.
que je peux entrer dedans. Et avec un voyage de moi-même. Et c'était un pièce dans mon répertoire très connu et important.
Donc, il y a 30 ans
oui.
de ça.
Et quand j'ai lavé ça pour la première fois, lui, il commençait de pleurer. Moi, j'ai commencé de pleurer. C'est comme ça avec nous deux. Il y a quelque chose de profond et qui est touchant quand on est ensemble. Il a dit, vous me donnez l'avenir de mon travail.
Oh.
Et confiance dans l'avenir. Et j'avais gardé ça, cette expression dans ma cœur depuis longtemps et je voulais faire un hommage à lui. Et finalement, c'était le temps, j'ai parlé... Et à Alison puis à Gilles. Et,
Alison qui est l'épouse de,
oui,
de Gilles Vigneault.
Oui, c'est l'épouse. Son sœur était mon manager depuis longtemps et après ça, sa fille. Et alors voilà, Gilles a dit oui et c'était magnifique de rentrer dans son monde.
Et est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce spectacle hommage dansé
oui,
à Gilles Vigneault?
2 ans. On n'avait pas beaucoup d'argent. Il y a 9 personnes dans le spectacle.
9 interprètes?
Oui, 9 interprètes. C'est pas moi qui danse. C'est 9 interprètes qui a créé la pièce avec moi. Mon équipe collaborative, c'est 3 femmes qui s'appellent La Tresse. Et... alors, on a fait ça et la
Il y a différentes générations, hein, je pense.
Oui, oui.
Qui sont représentées sur
oui,
la scène.
Entre 20 ans et 50, 55,
ah, oui,
peut-être. Oui. 50. En tout cas, il y a plein de générations et les nouvelles yeux, les nouvelles cœurs qui va... interpréter la musique de Gilles pour l'avenir. C'est quoi nous? C'est que, qu'est-ce que ça touche dans nous, dans cette époque?
Et donc, le spectacle, allez-y.
Oui, c'est comme une révolution de gentillesse, noblesse,
oh, wow.
de tendresse. Dans le monde est dur à ce moment. C'est dur et c'est poussant et c'est agressif. Et on est contre. On veut... grandir un espace.
Faire la révolution de la gentillesse.
Oui, et c'est ça que j'adore pour, et pourquoi je suis Québécois, que je reste à Québec. Je suis née ici, c'est sûr, mais je suis Québécois. Mm-hmm. J'adore cette passion qui existe. J'adore la nature qui change tout le temps.
Oui, vous me parliez de la beauté du parc La Fontaine.
Ah,
vous
oui.
aimez regarder les arbres se transformer, les feuilles
oui.
qui tombent et... Ça vous inspire aussi
plusieurs
pour tout.
Pièces, oui, ouais. pour plusieurs pièces. J'ai créé une pièce sur printemps pendant la pandémie parce que c'était comme tout. C'était juste les grains d'énergie qui veulent sortir. Puis,
oui.
finalement, poum, l'été est là. C'est pas beaucoup de printemps, c'était juste boum,
ah,
l'été.
Ouais. Angers, c'est le titre d'un spectacle que vous portez. Là. C'est vous qui dansez et vous faites une tournée avec ce spectacle-là?
Avec la...
Le spectacle s'intitule Angers?
Angers, oui.
Ouais.
Oui.
Pourquoi Angers?
Angers, parce que je suis Angers.
Oui, mais tout le monde est Angers. On a un âge.
Mais en anglais, on appelle ça « old ».
Oui, oui, oui. Personne âgée. Ouais.
Oui, personne âgée, parce que ma tante est presque 100 ans
centenaire?
Et 4.
Oh!
Et elle est juste prononcée la plus vieille personne de les Olympiques au monde.
Ah oui!
Elle commence de rire quand elle a écouté cette nouvelle. C'est super, mais... Elle me donnait beaucoup de confiance dans la façon d'agir. Je pense que la chose la plus importante, c'est la curiosité pour la vie. Mm-hmm. Et aussi de ne pas pousser, mais de « yield », de laisser ça grandir. C'est comme un
guérir.
Pour guérir des choses,
ouais.
Il faut avoir la confiance dans des choses qui... une expansion que tu entres dans l'air, pas par pousser, mais par laisser l'énergie sortir de toi.
Ouais.
Et c'est très intéressant pour moi. Je veux partager ces idées. Aussi, la côté est difficile. M'habitude, oh, on est vieux, c'est ça, oh, je perds ça,
le vieillissement, c'est terrible. Mais ça peut
c'est
être
dur,
vrai aussi.
C'est
là.
Dur.
Ouais.
Mais il y a des cadeaux dedans avec l'énergie. Et,
quel genre de cadeaux? Quand on a
l'énergie,
ouais,
la curiosité,
ouais, quand on,
on peut guérir les choses. C'est pas juste de descendre directement. Il y a la monde des petites choses qui va être très intéressant et très touchant pour nous. Il y a une sagesse qui vient aussi si on est capable d'ouvrir et apprendre ça.
Et de rester aussi dans l'air du temps, intéressé à ce qui
oui.
se passe autour de nous. Mais est-ce que le public est au rendez-vous? Est-ce que vous sentez un préjugé envers une danseuse septuagénaire comme vous l'êtes?
Ah oui, absolument.
Ah oui?
Dans le sens, il me fait que je suis diversité. Je suis dans la catégorie
de la
diversité parce que je suis vieux. Mais
comment ça...
quand même, je pense qu'à chaque niveau de ma vie, il y a le monde qui aime ce que je fais, mais il y a aussi le monde que... Parce que ce que j'ai créé, la forme de danse, la façon de créer, ça vient de philosophie, alors c'est un peu différent de les autres compagnies ou des choses comme ça. Maintenant, c'est dans le vocabulaire international. C'est sûr que j'avais dansé partout au monde. Et je suis très fière de ça, que j'ai fait une influence que moi, je pensais une bonne
ouais,
influence.
Oui, influence, inspiration.
Oui.
Qu'est-ce que vous souhaitez léguer artistiquement, humainement aussi, aux générations qui vont vous suivre, Margie Gillis?
Quand je travaille avec des jeunes, et c'est sûr qu'il y a les jeunes dans cette production, ce que je voulais pour eux, c'est d'aider eux de réaliser le passion et les idées et leur propre...
Univers.
Univers.
Leur personnalité.
Oui, et ce qu'ils
unique.
Veulent, c'est les questions, de donner des questions à eux. Pourquoi tu danses avant quelqu'un? C'est
ah,
quoi
oui.
dans ton âme? Comment écouter cette musique? Comment te sentir? Est-ce que parce que la musique, quand on danse, le danseur peut changer la façon que tu comprenais la musique. Aussi, tu peux danser avant la note, sur la note, après la note. Tu peux sentir que la note, c'est en haut de toi ou qui sort de toi ou qui sort le sol en dessous de toi. Il y a plusieurs... Et l'audience est très, très sensible. Si vous êtes capable de laisser ouvert ton énergie à eux.
C'est une question d'écoute partager. Et de rythme et de partage. Oui. Alors, on invite les gens à découvrir l'âme du poète Hommage dansé à Gilles Vigneault. On espère que Gilles Vigneault soit dans la salle. Oui. Qui sait, le 4 novembre au Théâtre Gilles Vigneault, c'est à Saint-Jérôme. Il y aura des musiques de Gilles Vigneault, bien sûr.
Oui, il a choisi 7 chansons pour les pièces et on a travaillé sur ça, avec Voyage au milieu.
Vous nous donnez vraiment envie. Et aussi d'aller voir votre solo, Margie Gillis, à travers le spectacle AG. C'est un solo qui célèbre le corps dans toute son histoire et dans toute sa vérité.
Merci.
Merci. Ça a été une belle rencontre. J'aurais aimé continuer aussi, de parler avec vous.
Ah, Stéphane, merci beaucoup.
Portez-vous bien. Bonne santé. Bonne continuation.
Merci.
C'est la chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte qui s'en vient dans la prochaine demi-heure.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte, comme à tous les mois. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour.
Trois films aujourd'hui,
comme la plupart du temps.
Oui, comme d'habitude. C'est pas une exception. Alors, allons-y avec un film québécois de Marie Brassard, qui est aussi une comédienne, une des protégées de Robert Lepage pendant plusieurs années. Et elle a réalisé le film Le Train. On va d'abord écouter la bande-annonce.
Le train, tu le vois passer?
Non, mais je l'entends.
Il va où?
Il traverse la frontière au bout de la forêt.
La frontière d'un autre pays?
Non. La frontière entre nos autres. Puis tout ce qu'on connaît pas.
Tous mes amis. Agathe, je te présente Franck.
Tu fais quoi dans la vie?
En ce moment, j'écris l'histoire d'une jeune japonaise qui vit dans une ville du futur.
Et j'écris un peu aussi. Des fois, les histoires viennent de mes rêves.
Des fois, j'imagine que je suis dans le train. Je vais dans l'autre monde.
J'ai dû rêver à toi, déjà.
Ou alors, c'est moi qui rêvais à toi.
Le temps passe vite. Ma jambe te distrait plus. Ma mère dit que j'ai beaucoup d'imagination.
Ta vie t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux avec.
La vie t'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec. OK, d'abord. Alors, Louise Véronique, Le Train, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est un film qui m'a éblouie.
Ah oui, à ce point-là.
Ben, c'est son premier long métrage à l'âge de 65 ans, quand même. Alors, c'est un... On connaît Marie Brassard pour... tous ses rôles au théâtre et aussi dans le film de Denis Côté, là, Vic et Flo ont vu un ours.
Oui, avec Pierrette Robitaille.
Oui, oui, vous vous souvenez. Alors, c'est, comme elle le décrit elle-même, c'est un film d'un drame réalisme magique.
Est-ce que vous faites la comparaison avec le film de Denis Côté?
Non, pas du tout, en fait. C'est que, je veux dire qu'elle a aussi une expérience d'actrice très forte
au théâtre, beaucoup.
Au cinéma. Ouais. Je pense qu'elle a accumulé toute son expérience et qu'elle l'a mise dans ce film. C'est, comme elle dit, c'est un film de réalisme magique. Donc, elle nous amène par la main dans un univers qui est très poétique, très onirique.
Et on embarque dans le train.
Et on embarque dans le train avec elle. En fait, elle s'est inspirée de ses souvenirs d'enfance, de sa jeunesse dans une banlieue de Trois-Rivières. Elle était une petite fille très imaginative, Marie Brassard. Alors, elle retrouve en fait son imagination dans cette petite fille qui s'appelle Agathe et qui a 7-8 ans environ. Et elle rêve beaucoup la nuit d'un train et qui s'en va vers un milieu inconnu, un monde énigmatique. Elle est asthmatique. Et sa mère, interprétée par Larissa...
Corriveau. La petite fille. Qui joue la petite fille?
Oh, la petite fille. En fait, c'est en deux étapes parce qu'il y a deux époques, les années 60, les années 70. Alors... Attendez un instant que je retrouve. Oui, alors c'est la petite fille, c'est Tally Renz, que je ne connaissais pas, qui est magnifique oui. dans ce film. Oui. Et puis, quand elle devient adolescente, c'est Electra Codina Morelli. Alors, oui, parce que la petite fille, dans ses rêves, elle imagine un garçon, elle voit un garçon. Et plus tard, dans les années 70, elle est adolescente, elle va rencontrer ce même garçon dont elle a rêvé et qui veut devenir écrivain. Alors, il faut parler aussi de la mère. La mère, c'est Thérèse. Et la mère, elle vit seule, elle élève sa fille, elle a mis de côté tous ses talents artistiques.
Oui, j'entendais Marie Brassard en entrevue dire oui. que c'était une sorte d'hommage qu'elle rendait à sa mère dans
ce film.
À sa mère
et à toutes les femmes qui ont mis de côté leurs rêves.
Oui, qui ont fait des sacrifices.
Qui ont fait des sacrifices pour élever
les enfants.
Élever seuls leurs enfants. Et cette Thérèse aussi, elle pense aussi à son mari qui a disparu, qui est parti comme ça, sans laisser de traces. Elle se demande pourquoi. Alors, on pense toujours qu'il va y avoir un drame dans ce film.
Ah oui?
Mais,
il y a une tension?
Ben, un peu, on peut imaginer qu'il n'y a pas vraiment de drame, d'enjeu dramatique. Mais c'est un film sur la poésie, la lenteur. Elle s'est beaucoup inspirée du cinéma japonais, d'ailleurs. Et on retrouve sa fascination des films japonais aussi dans ce film, mm-hmm. par la lumière, mais aussi l'esthétique du film est très, très, très soignée. On retrouve les costumes, les femmes aimaient s'habiller à cette époque-là, dans les années 60. D'ailleurs, Thérèse travaille dans un atelier de couture. Et donc, tous les tissus, la lumière, c'est le toucher, les décorations. Donc, tout ça est vraiment mis de l'avant.
C'est pour ces raisons que vous avez été éblouie?
Oui, mais aussi la fin, on se demande où est-ce qu'elle nous amène avec tout ça. Et là, la fin est très surprenante. Je ne vous dirai pas quoi.
Merci.
Mais on est dans un univers parallèle. Et ça rejoint aussi son film, son spectacle solo que j'ai vu récemment d'ailleurs, Jimmy, créature de rêve. Alors, elle se demande aussi, est-ce que les personnages auxquels on rêve existent vraiment?
Mais là, on a une preuve que ça peut exister avec le personnage de l'écrivain.
Oui, alors, je ne vais pas vous en dire plus, là. Mais moi, c'est un film à voir, parce que c'est aussi tout l'éveil de la culture des années 60 et 70. C'est relié à la culture québécoise aussi, mais aussi à sa fascination, comme je vous le disais, du Japon.
Le train par Marie Brassard,
oui.
qui prend l'affiche
ce vendredi au cinéma Beaubien.
Merci. On y va donc avec un autre film, cette fois de Quentin Dupieux, qui me fait assez rigoler, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. L'accident de piano, il a vraiment un imaginaire complètement bizarre. Et à part. Oui. Voici la bande-annonce.
Vous êtes prête? Vous êtes née le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y.
Mais c'est chiant, regarde.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Vous avez des dents parfaites.
Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner ?
C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas?
Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là?
Ah ben non, on va pas s'arrêter en si bon chemin.
Alors, je vous ai vu rouler des yeux, très oui. chère Louise Véronique Scott. Oui, on entendait la très belle voix de Sandrine Kiberlin, qui fait partie de la distribution.
Oui, elle interprète une journaliste qui va essayer d'avoir une primeur en interviewant une influenceuse qui est...
Une joueuse de piano?
Non, une influenceuse sur les réseaux sociaux.
OK, je pensais que l'accident de piano, ça avait rapport avec l'influenceuse.
Oui, mais justement, parce que l'influenceuse, c'est interprété par... par Adèle Exarchopoulos. Qu'on a découvert dans La vie d'Adèle et aussi dans d'autres films de Quentin Dupieux. Deux autres films.
Ah, c'est Quentin, c'est pas Quentin.
Quentin, oui, ouais. En effet, excusez-moi. Quentin. Alors, oui, c'est un peu comme ça qu'il est, d'ailleurs. C'est un univers très particulier.
Y a-t-il une histoire?
Il y a une histoire. Cette influenceuse, elle a un état physique particulier. Elle ne ressent pas la douleur. Donc, elle exploite
chanceuse.
Cet état. Oui, mais elle l'exploite de manière très dangereuse parce que sur les réseaux sociaux, elle se filme elle-même en train de se mutiler, en train de...
Elle ne ressent rien.
Elle ne ressent rien.
Donc, mais elle se fait mal quand même.
Elle se fait très mal, oui, oui.
Ah,
et c'est
oui.
de plus en plus dangereux ce qu'elle montre à ses fans parce que c'est comme ça qu'elle a fait sa célébrité, c'est comme ça qu'elle est devenue très riche. Et bon, l'accident de piano, dès le départ, la première scène, on voit un piano suspendu à une grue. Alors, on peut imaginer un peu l'inconfort, se dire « Ah, il va se passer quelque chose avec ce piano ». Et effectivement, ça lui tombe sur la tête. Alors, le personnage de Magali, qu'on appelle Magaloche dans le film.
L'influenceuse,
oui. Elle est, c'est une composition absolument délirante que fait l'actrice.
Elle est méconnaissable.
Moi, je la reconnaissais pas même dans la bande-annonce.
Je me disais, elle me dit quelque chose, mais c'est vraiment une transformation là.
Total, oui, extrême. Et elle rentre vraiment à plein dans ce personnage complètement détestable, imbu d'elle-même, qui fait promener tout le monde. D'ailleurs, dans ce film, on la voit avec une perruque, avec des broches sur les dents, un plâtre, un collet, parce que bien sûr, elle a eu un accident. Et en fait, c'est une critique très, très profonde qu'il fait de ce milieu, jusqu'où on peut aller pour
de
atteindre
ce milieu, des influenceurs,
des réseaux sociaux, jusqu'où on peut aller pour gagner une célébrité,
attirer
l'attention. Et tous les personnages là-dedans ne sont pas nets. On a entendu la voix de Sandrine Kiberlin qui interprète une journaliste qui va justement vouloir l'interviewer. Et c'est une scène qui est très beaucoup de tension. Et plus ça va aller, plus ça va. Le film va délirer, je dirais.
Délirer
dans la partie plus sanglante, on va dire.
Bon, oh, alors... ça devient quoi, un film gore?
C'est limite à ça. Mais bon, ça se veut une comédie, hein, parce que Quentin Dupieux, ne veut jamais faire un film semblable à ses précédents. Donc, c'est toujours des styles différents. Moi, je l'avais vu j'avais vu le film d'Ali, où plusieurs personnages interprétaient Salvatore Dali. Alors, vous vous souvenez? Alors, c'est toujours des comédies noires, en fait. C'est une sorte de comédie macabre, mais qui veut dénoncer ce qui se passe. En fait, l'époque du vide, selon lui.
Cette proposition-là ne semble pas vous avoir
convaincue. Je pense que c'est un style d'humour qui peut plaire à certaines personnes qui aiment déjà le style de Quentin Dupieux. Moi, ça ne m'a pas beaucoup accrochée. J'ai trouvé que le personnage était... C'est une très forte composition de l'actrice, mais on la déteste, elle est insupportable. Elle va devenir peut-être plus émouvante vers la fin parce qu'on sait pourquoi elle fait ce travail. En fait, elle devient victime du système elle-même.
C'est donc expliqué
d'une certaine façon, mais c'est un humour qui, moi, ne m'a pas beaucoup rejoint, mais qui dénonce, en fait, tout ce système de vedettariat instantané. Et c'est, mais c'est vraiment, comme le réalisateur le dit lui-même, il ne veut pas faire de réalisme dans ses films. Alors voilà. Donc, ça sera présenté à la Cinémathèque à partir du 31.
Parfait. Octobre. Moi, j'avais vu le deuxième acte et j'avais bien aimé.
Oui.
Oui. Alors, allons-y avec le troisième et dernier. On n'a pas de bande-annonce. Vous avez vu ce film en visionnement de presse, Un simple accident de Jafar Panahi qui a remporté la Palme d'Or à Cannes.
Oui, qui va représenter la France pour la prochaine cérémonie des Oscars.
Mm-hmm.
Alors, Jafar Panahi, c'est un réalisateur qui a fait de nombreux, on pourrait dire, grands films reconnus dans différents festivals. Un simple accident, c'est son 11e long métrage. Alors, c'est, il s'est inspiré de son séjour en prison parce que, vous savez, il est interdit de tourner en Iran.
Ouais.
Alors, il doit tourner de manière clandestine et il a été emprisonné pendant 8 mois en prison en 2023. Il a côtoyé ses co-détenus et c'est pour ce film, c'est pour eux qu'il veut faire ce film. En fait, il s'est demandé si mes anciens co-détenus retrouvaient leur tortionnaire. Qu'arriverait-il s'ils pouvaient mettre la main sur leur bourreau? Est-ce qu'il y aurait vengeance? Est-ce qu'il y aurait pardon? Donc, c'est le...
Intéressante question.
C'est le film en question, c'est ça qu'il démontre. Donc, un mécanicien qui retrouve par hasard son ancien tortionnaire, qu'il n'a jamais vu parce qu'il avait les yeux bandés, mais il le reconnaît à son pas, à sa démarche, et il va le kidnapper.
Mais ce n'est pas un documentaire.
Non, c'est vraiment un film de fiction.
Ouais.
Oui, oui, oui. Mais,
Bien documenté.
Bien documenté parce que, justement, pour les dialogues, il a reçu l'aide d'une personne qui a fait beaucoup de prison en Iran. Donc, pour documenter aussi comment les détenus parlent de leur expérience.
Paraît-il que c'est drôle, qu'on
rit?
Ben
oui, en effet, c'est ça surprenant parce qu'il y a certaines touches d'humour où on va rire parce que ça allège l'atmosphère, mais aussi c'est que ça démontre l'humour des Iraniens, même dans les situations difficiles.
Vous avez aimé?
J'ai trouvé ça très, très fort. C'est très, très puissant. Et la finale, le dernier plan, laisse place à toutes les interprétations.
Ah oui, alors c'est un film qui mérite sa Palme d'Or.
Absolument.
Oui.
Oui.
On rappelle le titre, Un simple accident de Jafar Panahi, un autre film qui prend l'affiche vendredi.
Vendredi, au beau bien.
Super. Merci beaucoup, Louise Véronique Scott.
Toujours un plaisir.
Je vois maintenant Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Ottawa accusé de manquer à ses obligations en éducation francophone depuis 10 ans.
C'est le Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve et Labrador qui lance cette accusation à Patrimoine canadien, surtout de ne pas respecter 3 de ses obligations en matière de langue, en financement de l'éducation en français plutôt. Les deux parties ont récemment présenté leurs arguments devant la Cour fédérale, mais c'est un dossier qui date d'environ 10 ans. Ce que le reproche principalement le Conseil scolaire, c'est un manque de consultation pour déterminer les besoins pour la communauté francophone et un financement minimal de l'éducation pour les francophones de la province. Patrimoine canadien, de son côté, se défend en affirmant que c'est aux provinces de consulter et non au gouvernement fédéral. Il y a un troisième point dans tout ça qui concerne le manque de transparence dans l'utilisation des fonds pour l'éducation en français par la province. Le pouvoir de dépenser en éducation, c'est un pouvoir des gouvernements provinciaux. Mais le gouvernement fédéral peut financer l'éducation en langues officielles. Ça fait partie de la loi et de la Constitution, mais plutôt de la Charte des droits et libertés. Mais le fait qu'ils veulent... les provinces veulent avoir... ne veulent pas avoir de compte à rendre au fédéral sur la façon dont ils dépensent l'argent qui leur est donné. Les francophones demandent que ce genre de suivi puisse être fait depuis des années parce qu'on ne sait pas vraiment comment l'argent est réellement utilisé. L'argent donné par Patrimoine canadien pour l'éducation pourrait être utilisés à d'autres fins qui ont plus ou moins rapport avec l'éducation. Mais les provinces résistent à ça. On n'est pas capable d'avoir des clauses dans les ententes parce qu'ils ont quand même leur droit de dépenser. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones avait, il y a plusieurs années, tenté d'analyser les budgets des provinces, voir que si l'argent d'éducation, le patrimoine canadien était transféré en éducation dans les provinces. Ils ont découvert que c'était impossible de le faire. Il n'y a pas assez de reddition de compte, il n'y a pas assez de suivi dans les budgets. Bref, concernant la cause du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador et contre le patrimoine canadien, ils ont déposé leurs arguments, c'est pris en délibéré par la Cour fédérale et on attend maintenant le dépôt du jugement.
Et on s'en va en Acadie. Pas de nouveau seuil linguistique pour les municipalités du Nouveau-Brunswick.
Je reviens sur une nouvelle dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. C'était à propos d'une résolution qui allait être déposée pendant l'Assemblée générale annuelle de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Ça a eu lieu en fin de semaine. L'objectif de cette motion-là, c'était pour augmenter le seuil de la population anglophone qui justifie une offre de services en anglais dans les villes à majorité francophone du Nouveau-Brunswick. En ce moment, le seuil est de 20 % d'anglophones. Il faut commencer à donner des services en anglais. La motion, c'était de demander au gouvernement de faire passer ce seuil-là de 25 ou à 30 % L'Assemblée a voté pour reporter le débat à l'année prochaine. Une des raisons, on dit que c'est qu'il va y avoir des élections municipales au Nouveau-Brunswick en mai 2026. Donc, on préfère attendre que les nouveaux conseils municipaux soient en place. On veut aussi un peu se donner le temps d'en discuter, de ne pas créer une controverse en lançant ça sans en tenter de terrain, sans y avoir réfléchi, sans avoir vérifié si le gouvernement est même ouvert à discuter de cette possibilité.
Par ailleurs, Front uni des syndicats d'enseignants ontariens contre le projet de loi 33 de l'Ontario, c'est dans le droit.
Oui, puis je vous fais un rappel, c'est quoi le projet de loi 33? C'est un projet de loi qui est en deuxième lecture au Parlement ontarien qui accorde davantage de pouvoir au ministre de l'Éducation de l'Ontario. Si le ministre juge nécessaire, il peut suspendre les pouvoirs d'un conseil d'administration, d'un conseil scolaire. Par exemple, s'il trouve qu'il ne respecte pas son budget, que les dépenses sont trop élevées, que le déficit est trop élevé ou que quelque chose d'autre arrive, c'est un peu vague. C'est pas très bien défini apparemment ce qui peut constituer une bonne raison pour prendre le contrôle. Puis, bon, le ministre ne prendrait pas directement le contrôle, il nommerait quelqu'un pour s'occuper des affaires du conseil. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre ce projet de loi-là. Et plus récemment, c'est les cinq syndicats d'enseignants de l'Ontario qui incluent l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Ils expriment un peu leur inquiétude sur les dérives possibles que cette prise de pouvoir pourrait permettre. Les syndicats rappellent que pour les petites écoles éloignées, un administrateur de Toronto, basé à Toronto, ne pourrait pas comprendre les besoins d'une petite communauté rurale et ça pourrait créer des problèmes. Les syndicats accusent aussi Queen's Park de, en fait, se servir de ce projet de loi-là pour détourner l'attention du véritable problème du système éducatif ontarien, qui est le sous-financement et le manque de personnel. Il peut, justement, parfois entraîner des déficits.
Dans le franco, il est question du casse-tête des médecins francophones formés à l'étranger.
Ça a l'air tellement difficile pour les médecins formés à l'étranger d'obtenir le droit de pratiquer en Alberta que l'organisme Réseau Santé Alberta a créé un groupe de soutien pour les immigrants qui ont une formation en médecine dans leur pays d'origine, mais qui arrivent au Canada, que cette formation-là n'est pas reconnue comme étant équivalente, donc doivent suivre un processus pour être réaccrédités, on pourrait dire. Ces gens-là suivent donc le processus d'accréditation qui peut être très long. Le Collège des médecins de l'Alberta affirme que ça devrait prendre environ 3 ans. Mais c'est souvent plus long que ça, surtout parce que les immigrants qui arrivent ici, ils doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Par conséquent, la mise à jour ne se fait pas à temps plein, ça se fait à temps partiel. Il y a aussi la barrière de la langue, comme j'ai déjà entendu, comme on a déjà vu aussi ailleurs, les immigrants francophones qui arrivent ici ne sont pas toujours bien informés de la façon que le bilinguisme fonctionne au Canada et ils ne savent pas toujours que s'ils ne sont pas au Québec. Ils ont besoin de connaître l'anglais pour pouvoir travailler la majorité du temps. Ils doivent donc également mettre à jour leur connaissance de l'anglais. Bref, le groupe créé par Réseau Santé Alberta aide ces gens-là à moins se sentir seuls. C'est un appui entre collègues, disons, ça leur permet de persévérer davantage dans le processus d'accréditation, qui peut être lourd.
Oui, certainement. La solidarité joue un rôle important ici. Il est question d'insécurité alimentaire, c'est dans le Nunavoie.
C'est un texte partagé entre les trois journaux des territoires qui nous apprennent qu'en 2024, plus du tiers des familles de ces trois territoires-là canadiens vivaient de l'insécurité alimentaire. Et ça, c'est malgré une subvention qui s'appelle Nutrition Nord, qui a été créée en 2011. Grâce à ça, le prix de plusieurs... Mais malgré cette subvention-là, je devrais dire, le prix de plusieurs aliments reste élevé. Le programme subventionne en fait le transport des denrées selon le moyen de transport et la localité où il s'en va. Mais il y a un rapport qui a été produit, qui a été publié cette année, qui critique l'efficacité du programme Nutrition Nord. On affirme dans le document que les investissements sont en fait trop faibles pour que la subvention soit réellement efficace. Puis selon une des causes autrices, c'est la professeure Valérie Tarasuk de l'Université de Toronto, les investissements manquent de sérieux. Elle croit que les gouvernements et les politiciens sont conscients du problème de l'insécurité alimentaire au territoire, mais ailleurs aussi, mais qui ne comprennent peut-être pas la gravité de la situation. Il y a, selon elle, aucune discussion qui est engagée en ce moment pour régler sérieusement l'insécurité alimentaire, ni d'ailleurs pour envisager une approche de souveraineté alimentaire.
Finalement, Julien, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance francophone à l'honneur, c'est dans Franco-Presse.
Oui, cette semaine, c'est l'Association des universités de la francophonie canadienne a décidé de lancer la première semaine nationale de reconnaissance d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. C'est non assez long, mais ça dit tout ce que ça a besoin de dire. Ça a lieu cette semaine. Donc, l'objectif, c'est un peu d'attirer l'attention sur ce métier-là. On va en profiter pour remettre les premiers prix nationaux de reconnaissance des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Et aussi le lancement d'une série de balados nommés Empreintes sur l'avenir qui ont été enregistrés avec des professionnels du milieu. Puis l'association veut, avec tout ça, rappeler qu'il y a encore beaucoup de défis dans le milieu de la petite enfance francophone, à commencer par une pénurie de personnel, mais il y a aussi des manques de places et d'infrastructures et de financement à certains endroits pour certaines communautés. Selon l'Association des universités, d'ici 2035, les services de la petite enfance vont avoir besoin d'environ 22 000 professionnels, alors que selon les données actuelles des gens et des formations disponibles, il va y avoir seulement un bassin d'environ 11 000 personnes pour ces emplois-là. Donc, c'est la moitié moins de ce qu'on aurait besoin dans plusieurs années. Et concernant la semaine, on espère que c'est juste une première et qu'il va y en avoir d'autres.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on se dit à la prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Merci. Dans le devoir, en plein bras de fer avec les fédérations médicales, le gouvernement Legault peaufine une quatrième proposition à soumettre aux spécialistes et aux omnipraticiens. La nouvelle qui a été rapportée par Radio-Canada hier a pu être confirmée par le devoir. On ignore toutefois le contenu de cette offre et le moment où elle sera déposée. La Fédération des médecins spécialistes du Québec a dit être prête à considérer une nouvelle offre du gouvernement, mais l'approche punitive doit être laissée de côté. Au profit d'une véritable négociation, les médecins veulent en faire plus, mais ont besoin des outils nécessaires pour le faire, a-t-elle ajouté. De son côté, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a dit vouloir attendre que ce soit concret avant de formuler des commentaires. Les discussions sont au point mort depuis que la médiation entre Québec et les deux fédérations a été suspendue. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute d'Au quotidien. On se retrouve demain. Bonne journée.